Le peloton RMC.
Yoann Bredov.
Salut à tous, bienvenue dans le peloton RMC, le roadbook consacré au Tour de France femme qui va débuter le samedi 1er août pour s'achever le dimanche 9 août. 9 étapes donc au programme de cette 5e édition du Tour de France pour les femmes. Pour en parler avec moi, pour vous présenter les enjeux, les favorites, mais également ce qui attend les coureuses sur le parcours, François Delataille est là. Salut François.
Salut Johan.
Et Maxime Martinez. Salut Maxime.
Salut Johan.
Allez, on est parti donc pour vous présenter tout ce qu'il faut savoir sur ce Tour de France femmes. Je le disais, 5e édition, 9 étapes au programme, on va en parler hein, parce que les Marion Rousse et les organisateurs qui ont poussé vraiment les curseurs au maximum, le maximum de kilomètres, le maximum de dénivelé positif. Mais d'abord, juste un petit mot avec vous sur le duel qui nous passionne tous, c'est comme ça qu'on le présente, un duel entre Pauline Ferrand-Prévot et Demi Vollering. Évidemment, il y en aura d'autres, on va en parler oui. Des autres outsiders, mais... On attend tellement Pauline Ferrand-Prévot, François, pour ce Tour de France, pour aller chercher le doublé.
Ah bah, elle a éclaboussé de sa classe l'édition 2025. Elle a vraiment réglé la concurrence. Ça a dû probablement un peu booster Demi Vollering. Donc là, on arrive sur le match retour.
Exactement, parce que Demi Vollering, elle avait été malheureuse la oui. saison dernière au Tour de France féminin en chutant d'entrée.
Ça fait deux années de suite où le Tour de France se termine un peu en queue de poisson pour Demi Vollering.
Exactement, et les 4 secondes en 2024, elle a soif de revanche, la coureuse de la FDJ United.
Ah, bien entendu, et elle s'est préparée en conséquence. Stéphane Delcourt, son manager général, l'a dit, c'était jeudi dans une interview au Telegram, qu'ils ont changé sa préparation. D'ailleurs, ça se voit depuis le début de la saison. L'année dernière, elle avait fait une campagne d'Ardennaise où elle avait toujours terminé en deuxième, troisième position. Cette année, elle gagne le Het Nieuwsblad, le Ronde, la Flèche, Liège, le Giro. Elle n'a pas couru depuis juin. Elle a fait une croix sur le Tour de Suisse, par exemple. Donc, c'est une Demi Vollering qui a changé sa préparation et qui est plus affûtée que jamais, avec surtout un collectif FDJ Suez assez impressionnant, il faut l'avouer.
Ouais, parce que quand on regarde les équipes, avantage à la FDJ, François, t'es d'accord ?
Ah bah la FDJ, c'est vraiment la Dream Team. Quand tu regardes, elles sont plusieurs à pouvoir, qui auraient pu jouer leur carte individuelle. Et là, elles vont être derrière Demi Vollering. Il va y avoir Juliette Berthet, Evita Music, Francis Accor qui a gagné Paris-Roubaix, Célia Géry, la championne de France, tout ça au service d'une coureuse qui est en pleine forme, ça peut faire mal.
Ouais, qui gagne tout en plus Demi Vollering. Donc le duel Demi Vollering, Pauline Ferrand-Prévot, on attend quand même d'autres coureuses. Je pense à Paola Blassi
qui a gagné. Très attendue, Paola Blassi, oui.
C'est quoi ? Elle peut rivaliser, vous pensez, avec Pauline et avec Demi ?
Alors moi, j'en suis persuadé. Ouais. Moi, je pense qu'on aurait tort de résumer ce Tour de France femmes à un duel entre Demi Vollering et Pauline Ferrand-Prévot. Elles vont être clairement les têtes d'affiche. Elles sont, en tout cas, Demi Vollering est en pleine forme. Pauline Ferrand-Prévot, il y a toujours cette incertitude parce qu'elle se prépare vraiment juste pour cet objectif. Donc, on va voir. On va assez rapidement voir si elle arrive dans la même forme que l'an dernier. Mais attention à Paola Blassi et attention à ne pas se surveiller qu'entre elles et à laisser l'Espagnol faire son affaire dans son coin parce qu'elle, elle a gagné la Vuelta, oui. Elle a gagné le Tour des Pyrénées, elle a gagné le Tour de Catalogne, à chaque fois en étant meilleure, et elle est très jeune, elle est encore en progrès, donc attention.
Elle a 23 ans, c'est la troisième mondiale sur la saison, elle fait franchement une saison exceptionnelle. Il y a un petit doute, et ça c'est le chrono, on verra à Dijon comment elle s'en sort en chrono, mais en effet, s'il y a un marquage entre Vollering et Pauline Ferrand-Prévot, elle peut en profiter. Et il ne faut pas oublier aussi le quatrième larron qui, sur la tranche d'âge du Tour de France, se trouve de l'autre côté, c'est Anna van der Breggen, qui a perdu le dernier jour le Giro, a perdu le dernier jour la Vuelta. Elle va avoir un goût de revanche aussi, Anna van der Breggen, à 36 ans, il faut rappeler.
Énormément de coureuses donc à suivre et qui pourraient jouer la gagne sur ce Tour de France femmes. Justement, parlons du parcours qui attend les coureuses. Départ de Suisse, il y aura un chrono, on l'a évoqué, le Mont Ventoux, une dernière étape à Nice avec la quadruple ascension du Col d'Aiz. On va pas s'ennuyer en fait sur ce Tour de France. Il n'y a pas une étape facile, François.
Non, c'est justement un peu l'objectif de c'est ce qu'expliquait Marion Rousse dans la manière de tracer ce Tour. C'est justement, elle voulait des étapes où les leaders et les favorites ne pouvaient pas tranquillement souffler sur une journée en se disant « Ah, bah, celle-là, elle va juste tranquillement… »
Le mot « étape de transition » est banni voilà. du vocabulaire.
Donc là, en fait, on est sur des classiques tous les jours avant l'arrivée dans la haute montagne avec le Ventoux. c'est censé être un tour qui ne baisse jamais d'intensité.
Alors, trois premières étapes, Maxime, qui partent de Suisse. À quoi on peut s'attendre sur ce grand départ en Suisse, sur ces trois premiers jours?
Alors, ça va être une bataille entre puncheuses et sprinteuses. Par exemple, le premier jour, il y a quand même une petite arrivée à la côte Saint-François, 2,6 km à 4,6% de moyenne. Donc, les puncheuses, par exemple, vont pouvoir s'en donner à cœur joie. Les sprinteuses, le lendemain, en direction de Genève, seront plutôt favorisées. Mais attention, le début de l'étape sera aussi compliqué. Donc, ça va toujours être ça. Ça va être des débuts d'étape compliqués avec des arrivées sur des replats. C'est toujours ce paradoxe qui va être mis en avant pour animer cette course.
Cette côte de Saint-François, on se rappelle, l'année dernière, Pauline Ferrand-Prévot, elle nous avait déjà impressionné premier jour. Elle fait gagner sa coéquipière alors qu'elle était peut-être la plus forte. Est-ce qu'on peut s'attendre à la même chose? Parce que Pauline, elle est capable de le faire, elle est capable de gagner sur ces arrivées très difficiles.
Bah, c'est justement ce qui va être intéressant, c'est qu'on va tout de suite avoir ce test révélateur qui va nous montrer quelle Pauline Ferrand-Prévot on va avoir cette année. Après, c'est une première étape avec une arrivée très, très musclée. Donc, c'est un maillot jaune à prendre. Et exactement, elle ne sera pas la seule à le vouloir.
Ouais, tout le monde le voudra, ce maillot jaune. Donc, voilà pour le départ en Suisse. Mais moi, ce que je veux accentuer sur le premier gros rendez-vous et celui où on a le plus d'interrogations, de questions à se poser, c'est la quatrième étape, ce chrono entre Gevrey-Chambertin et Dijon, c'est 21 km. Il y a les lacets de Marsannay à gravir au milieu. C'est 1,8 km à 7% de moyenne. C'est le premier vraiment gros rendez-vous, mais c'est la principale question. Demi Vollering connaît ses qualités de rouleuse. Okay. Elle a gagné le dernier chrono sur le Tour de France. C'était un petit chrono, mais elle l'avait gagné quand même. Mais ça vaut quoi, Pauline Ferrand-Prévot, en exercice chronométrique?
Eh ben, on n'en sait rien parce qu'elle n'a pas fait de chrono depuis... Pouf, depuis 5 ans.
5 ans. Les championnats de France à Épinal.
Voilà. Bon, et encore, c'était les championnats de France. Donc, sur la scène internationale, ça fait encore plus longtemps. Donc, c'est le gros doute, c'est le gros point d'interrogation au-dessus de Pauline Ferrand-Prévot sur ce Tour de France. Quel est son niveau en chrono? Après, on connaît Pauline Ferrand-Prévot. Hein, quand elle se prépare pour un objectif, elle se rate rarement, ou en tout cas, elle est toujours dans le coup. Donc, on peut imaginer qu'elle a bossé le chrono. Ça, c'est sûr et certain.
Elle peut le perdre, le Tour de France, sur ce chrono?
Alors, elle ne va pas gagner ce chrono. Elle va perdre du temps probablement sur certaines. On peut penser à une Marlène Reusser
qui est la grande favorite du chrono.
Mais elle va gagner probablement du temps sur ces mêmes spécialistes du chrono à d'autres moments, en montagne. Donc oui, ce chrono va être important, mais si elle limite la casse, ça peut le faire.
Ouais. Heureusement qu'il y a cette montée quand même, que ce n'est pas un chrono tout plat pour Pauline Ferrand-Prévot.
Ce n'est pas un exercice pour pure rouleuse. Hein. C'est lacets sont quand même bien compliqués, donc ça va être... un exercice un peu différent, un peu égal à celui qu'on a vu sur le Tour de France Homme cette année.
Oui, c'est ça.
Mais je suis assez d'accord avec Maxime. Pauline Ferrand-Prévot, l'an dernier, on pouvait dire aussi qu'on ne savait pas trop ce qu'elle valait la haute montagne. Elle nous a montré que quand elle se préparait, elle arrivait à son objectif. Donc là, peut-être qu'on va découvrir une spécialiste du chrono. On n'avait pas estimé. Ouais.
C'est tout faire, Pauline Ferrand-Prévot. Voilà pour le chrono. Et ensuite, vraiment, on ne va plus rigoler. Il y a les 5e et 6e étapes. Je les ai réunies parce que là, on a quasiment deux courses de classique. Ça sera exceptionnel. Il va en avoir partout.
C'est l'exercice pour baroudeuse ultime. Franchement, on va être dans les coteaux du Beaujolais. Déjà, le décor va être magnifique. Mais alors, ça n'arrête pas de grimper pendant toute l'étape. Sur ces deux étapes, on a une étape à 2900 mètres de dénivelé positif pour étape 5 en direction de Belleville en Beaujolais et 2600 en direction de Tournon-sur-Rhône, l'étape 6. Donc franchement, ça ne va pas arrêter de grimper. Ça va être un régal.
Comment tu sens la course, François, justement, sur ces deux étapes? Les favorites vont être obligés de se découvrir.
Alors oui, mais pour moi, ces étapes 5 et 6, ce qui va être crucial, c'est le collectif. C'est justement la stratégie. Ça va être vraiment un jeu d'échecs, avoir les bonnes filles aux bons endroits, dans les bons groupes, pour pouvoir justement protéger la leader ou justement lui permettre de sortir. Il va y avoir des coups aussi qui vont être potentiellement faisables. On se souvient de la manière dont Demi Vollering a remporté le Giro. C'est justement sur un coup comme ça où elle a réussi à faire la jonction avec le groupe de devant en partant et en mettant deux minutes dans la vue de Van der Bruggen. Donc il va y avoir des coups comme ça à saisir. Quelle équipe saura les saisir? On verra.
Et c'est là où le collectif d'FDJ Suez, par exemple, va pouvoir être important avec cette composition d'équipe XXL, comme on le disait.
Elle est incroyable cette équipe FDJ United Suez. Allez voir hein, d'ailleurs sur les réseaux, ça fait peur. Et en plus, il y a beaucoup de Françaises. Donc on est ravis quand même de la composition de cette équipe.
On vous mettra la start list de ce Tour de France sur le réseau Peloton RMC, bien entendu.
Messieurs, septième étape.
Ah,
ouais, enfin il est là, le Mont Ventoux qui sera gravi pour la première fois de l'histoire, de la jeune histoire du Tour de France. Ouais.
Et même,
évidemment,
je suis un peu remonté dans l'histoire, même sur les précédentes éditions dans les années 80, le Ventoux n'avait jamais été franchi, donc c'est vraiment une première sur le Tour de France féminin en général.
Et on a eu la chance d'avoir dans un Intégral Sport en début de semaine Evita Music qui nous disait qu'elle avait gravi elle plusieurs fois en course, mais sur le Tour de l'Ardèche, etc. Donc sur des petite course entre guillemets, c'est quasiment une course de côte. L'étape du Mont Ventoux, François.
Bon, c'est complètement une course de côte. Il se passe pas grand-chose quand même jusqu'au pied du Ventoux. Et
comme
ensuite,
souvent pour le Ventoux.
Oui, c'est vrai. Mais donc ça va être pour moi cette étape, elle est très symbolique. C'est toujours spectaculaire le Ventoux, ne serait-ce que par les paysages. Mais après, stratégiquement, je pense que ça va vraiment être la meilleure qui s'imposera. Il y aura pas forcément de piège dans cette étape. Ça va vraiment être une course à la pédale et on verra. Enfin, ça va probablement déterminer un peu le classement général, mais il y a moins de pièges, on va dire.
C'est là que ça se joue. La vainqueur au sommet du Mont Ventoux sera la vainqueur finale du Tour de France, Maxime?
Pas forcément, parce que, par exemple, on peut imaginer justement Paola Blasi s'imposer sur le Ventoux, mais qui peut avoir perdu un peu de temps sur le chrono, et ça peut un peu rebattre les cartes. Il n'est pas forcément certain que la gagnante, ça dépend aussi des écarts. On peut avoir des coureuses qui sont dans un mouchoir de poche au soir du Ventoux. Donc, je pense que ça reste ouvert après le Ventoux parce que le programme du week-end est quand même aussi intéressant pour le classement général. Mais il est certain que ce sera une des favorites du classement général qui s'imposera au Ventoux, ça c'est certain.
Et puis c'est magnifique d'avoir le Mont Ventoux pour le Tour de France Femmes. C'est vraiment, ça montre l'évolution quand même. L'évolution ultra rapide de ce qu'a fait Marion Rousse depuis le retour du Tour de France, mais on pense à l'Alpe d'Huez où maintenant le nom d'Amy Vollering est mis parmi les vainqueurs aux côtés des hommes. Ça sera pareil pour le Mont Ventoux, c'est incroyable de voir ça pour le cyclisme féminin.
Ah oui, et plus rien n'est interdit dans la manière de tracer les étapes, et c'est bien, c'est super. En fait, il n'y a pas de raison de se priver de monuments du cyclisme chez les femmes, alors que voilà, on peut avoir une super bagarre dans le Ventoux et on va l'avoir et ça serait dommage de
s'en priver. Et on sent qu'il faut rattraper un peu le temps perdu, c'est-à-dire qu'on enchaîne ces gros noms année après année. On a eu l'Alpe d'Huez il y a 2 ans, on a eu le Tourmalet lors des premières éditions aussi. Ce Tour de France sur 9 jours ne peut pas faire et Alpes et Pyrénées comme le fait le Tour de France homme d'habitude. Mais voilà, il y a une envie de rattraper le temps perdu et que les coureuses soient le plus vite possible face à ces géants des Pyrénées, des Alpes et ici le Ventoux en Provence.
Et c'est la seule étape finalement classée en haute montagne, mais on l'a vu, il y a tellement de dénivelé positif que toutes les autres étapes seront compliquées, dont celle de l'avant-veille de la veille de l'arrivée, au lendemain du Ventoux. Bon, là on s'attend à une arrivée peut-être au sprint.
Oui, logiquement.
Il en fait un petit peu pour tout le monde.
Il y aura des difficultés. C'est quand même 1420 mètres de dénivelé positif.
Toujours.
On part de Sisteron, on arrive à Nice avec une arrivée sur la promenade des Anglais. Alors, pas l'arrivée classique qu'on a sur Paris-Nice, ça ce sera plutôt pour le lendemain. Une arrivée qui ressemble à celle du Tour de France homme en 2020. Rappelez-vous, c'est là où Thibaut Pinot était tombé à quelques mètres de l'arrivée sur ce fameux verglas d'été en plein mois de septembre. Mais voilà, c'est une arrivée où, après les premières difficultés, on est sur la route Napoléon. Pareil, le décor va être magnifique. Il y a des difficultés sur les 75 premiers kilomètres et après, ça va redescendre en direction de Nice. En toboggan, une petite difficulté à 6 km de l'arrivée pour essayer de pimenter les choses, mais logiquement un sprint.
Et on va rester à Nice pour la dernière étape, et c'est là, elle est juste incroyable, elle fait moins de 100 km, mais alors le col d'Aise, il sera fait et refait, François.
Ouais, ça va être le feu d'artifice. Moi, ça me fait penser beaucoup aux arrivées de Paris-Nice chez les hommes, où justement, il y a cette étape souvent qui part dans tous les sens, où en gros, c'est allez-y, attaquez dans tous les sens. Pour peu que les écarts ne soient pas très élevés à la veille de cette arrivée, ça va être une étape ultra nerveuse où potentiellement le classement général peut se jouer comme ça s'est fait sur le Giro.
Sur le Giro, c'est exactement le même profil que la dernière étape du Giro où Vollering s'est imposé. Enfin, exactement. En tout cas, sur le scénario possible, on peut totalement imaginer ça. Avec ce col d'Aise, donc, à 4 reprises, avec une dernière ascension du col d'Aise qui est encore plus compliquée que d'habitude parce qu'on passe par le chemin du Vinaigrier et le col des 4 chemins. Alors ça, c'est des noms qui parlent quand on regarde Paris-Nice. C'est encore plus compliqué et ce sera vraiment un feu d'artifice en direction de Nice.
Quand on regarde comme ça, alors évidemment, on est avant la course, mais j'ai l'impression que ce parcours, il est parfaitement tracé.
Ah oui, il est très excitant, ça c'est sûr.
Ça c'est-à-dire donne envie de se poser devant la télé.
Si vous cherchez à faire des siestes, ça va pas être.
L'avantage,
c'est que comme les étapes vont pas toutes être diffusées en intégralité, il y aura que le Ventoux et l'arrivée finale à Nice. Il faudra faire la sieste avant le début de l'étape.
Exactement. Ou alors écoutez RMC, parce que toutes les étapes seront à suivre, à vivre sur RMC entre 15h et 18h. On sera avec une consultante, Camille Failly, qui a participé 2 fois au Tour de France. Elle nous parlera aussi justement de l'évolution du Tour, elle qui l'a connue il y a plusieurs saisons maintenant. Et on ne ratera rien de ce qui se passe pour ce Tour de France femme. Donc, et ce duel, entre guillemets, avec de gros guillemets, entre Pauline Ferrand-Prévot et Demi Vollering, on l'aime. On aime le présenter comme ça, mais c'est vrai qu'on a parlé de Paola Blasi, mais il y en a d'autres aussi à suivre. Nyavia Doma, qui a gagné le Tour de France, c'est elle qui l'avait gagné en 2024.
La question après son début de saison un peu compliqué. Mais voilà, on a Marlène Reusser, qui est grande favorite du chrono de Dijon. Ça part à domicile. Il y a une grande absente aussi, qui est Élise Chabet, la maillot à poids du dernier Tour de France, qui va attendre un heureux événement pour la fin de l'année, je crois. Donc,
et c'est pour ça que Célia Géry participe.
Exactement. Et puis, pour les sprints, on a toujours la reine Lorena Vibes.
On a les meilleures coureuses du monde.
Ah oui, le plateau est magnifique.
Ce Tour de France femme a réussi à faire ce que le Tour de France homme faisait, c'est-à-dire s'imposer comme la course qu'aucune coureuse ne veut rater. Toutes les stars sont là. Donc franchement, il n'y a plus qu'à sortir le pop-corn et regarder.
Et même le calendrier est en train de se réorganiser autour de ce Tour de France avec le Giro qui a pris la place du Giro habituel, c'est-à-dire fin mai, début juin pour les femmes, juste après
le Giro masculin. Parce qu'avant, il était quasiment juste avant le Tour.
Il était en juillet.
Ouais.
En juillet, pendant le Tour homme.
C'est ça, oui.
Et la Vuelta, alors qui a gardé sa place, en fait, qui est la place historique de la Vuelta dans le calendrier masculin, c'est-à-dire avant le Giro, il a cette place-là, mais commence à bruisser des bruits comme quoi on pourrait peut-être avoir une Vuelta en septembre comme les hommes.
Et en tout cas, le Tour de France femmes, lui, s'est décalé. Hein. Si vous aviez suivi les précédentes éditions, il partait quasiment en même temps à l'arrivée du Tour de France hommes. Mais cette fois, c'est trop compliqué. Il a tellement pris d'ampleur, Tour de France femmes, qu'il est obligé d'être décalé.
C'est une émancipation.
C'est une émancipation et c'est aussi financièrement un moyen de pas doubler en fait les effectifs. C'est on va avoir une course qui se termine et on pourra renvoyer entre guillemets la même caravane vers le Tour de France Femmes. Donc ça va aussi profiter du gigantisme du Tour de France Hommes pour le Tour de France Femmes, qui avait une caravane qui était réduite puisque ça partait en même temps.
Voilà les points clés du coup de ce Tour de France Femmes à suivre du 1er au 9 août sur RMC. Toutes les étapes en intégralité de 15h à 18h. On ne ratera rien de ce qui se passe. Et évidemment, on suivra les performances de Pauline Ferrand-Prévot, de Demi Vollering avec l'équipe française de la FDJ United Suez, accompagnée d'Evita Music, de Juliette Berthet, de Célia Géry. Bref, il y aura du monde, on suivra également, on n'en a pas parlé, mais Maëva Skiban qui a gagné 2 étapes l'année dernière, Cédrine Kerbal. Voilà, il y a des
Marion
Françaises.
Bunel qui sera la lieutenant de Pauline Ferrand-Prévot en montagne.
Voilà, la jeune génération française pousse évidemment et portée par l'élan du Tour de France femme. Merci François, merci Maxime, on vous retrouve très vite pour de nouveaux épisodes du Peloton RMC. Abonnez-vous, mettez 5 étoiles et on revient très vite. Salut à tous.
Le Peloton RMC.